Cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 21 janvier 1993.
Vivant. Le vivant est ce chose qui n'est pas lui et qui devient lui. Et c'est à travers cela qu'il découvre ce qu'il est comme vivant. Donc il y a comme une démarche nouvelle. Je me pose donc la question au plan philosophique. Est-ce que ce langage des traditions religieuses est-il mythique, symbolique, ou au contraire, est-ce qu'il me met en présence de quelque chose qui existe ? Vous voyez, le jugement d'existence, quelque chose qui est une réalité d'un caractère tout à fait particulier. Ce problème de l'âme se pose au philosophe. Il ne peut pas éviter ce problème. Ou il se mettra devant à la suite d'une métabiologie en disant l'âme n'existe pas, ou l'âme, je ne peux pas en tenir compte, c'est un mythe philosophique. Pour distinguer l'homme des animaux, pour lui donner une noblesse unique, c'est vrai, l'animal, on l'enterre et puis c'est terminé. L'homme, non, on l'enterre aussi. Mais on sait qu'il y a autre chose. Et c'est au fond très curieux, et ça, c'est la donnée archéologique et historique, qu'il y a le phénomène de la mort. Religieuse apparaît comme l'ultime moment du pèlerinage terrestre et qui est toujours regardé avec beaucoup de respect. On respecte le vivant qui meurt, l'homme vivant qui meurt. Et on l'enterre. Un geste religieux qu'on retrouve dans toutes les traditions religieuses. Et tout spécialement dans la tradition judéo-chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est là encore quelque chose, tout simplement un peu de superstition ? La peur, ce qui va se passer dans l'au-delà. La première fois que j'étais à Taïwan, j'ai assisté à une cérémonie religieuse comme ça. On circulait le soir à Sanxia, puis on entendait des chants, des cris. Alors, ah, ils m'ont repoussé. Et puis quand on a fait le geste qu'on venait pour prier, ils sont ouverts. C'est très curieux. C'est quand ils ont compris qu'on n'est pas en spectateur, mais comme religieux. Alors on a assisté à une cérémonie où on faisait à la fois appel à toute la vie passée, toute la vie future. Il y a un poids religieux qui accompagne le point de vue de la mort et qui fait qu'on accompagne celui qu'on a aimé, celle qu'on a aimé dans l'au-delà. Et on essaie de montrer sa présence et de montrer le dernier combat représenté par une espèce de celui qui veut attirer vers lui, le démon pour nous. Mais il y a toujours ce dernier combat. Et la mort est considérée comme le dernier combat. Et on prie pour qu'il y ait la victoire. Mais tout ça, est-ce que c'est un mythe ? C'est très, très intéressant. Notre civilisation scientifique, notre civilisation rationnelle, doit-elle considérer tout ça comme quelque chose, oui, pour les enfants. Et c'est vrai, d'extérieur, on dirait un jeu enfantin qui reconstitue tout ça, avec des habits religieux. Alors je me pose la question, vous voyez, c'est important. La philosophie se pose la question tout de suite, qu'est-ce que c'est que mes activités, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut, étant donné que l'âme est rejetée dans tout un climat proprement scientifique, rationnel, positiviste, je crois qu'on est obligé, au plan philosophique, de mettre très en lumière le poids des traditions religieuses quand il s'agit de l'âme. Ce que fait Platon, Aristote le fait beaucoup moins, mais ce que fait Platon, et il n'a pas besoin de le faire puisque Platon l'a fait, il y a une espèce d'association entre Platon et Aristote. Bien pour trouver ça chez le néoplatonisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme? Est-ce que l'âme est un mythe? Est-ce que l'âme est une source de vie, une réalité existante? Il faut souligner que lorsqu'il s'agit de l'âme, on a une connaissance affective première. Mon intériorité. C'est aussi très important à mettre ça très en lumière. Qu'est-ce que c'est que l'intériorité? Vous voyez, l'immanence du vivant qui, pour moi, pour chacun d'entre nous, est une vie intérieure. On ne peut pas nier qu'il y a un phénomène très particulier par lequel je m'intériorise. Quand on voit ces deux types au plan psychologique, introverti, extraverti, ça veut dire quelque chose de particulier. Il y a des gens, des personnes humaines qui ont besoin de clamer tout ce qu'ils portent en eux, tous leurs sentiments. Il faut le dire, il faut le dire, il faut que ça sorte. Et on trouve quelqu'un qui écoute. On a besoin de l'autre qui écoute tout ce que j'ai eu ce matin. Ça. Il y a des gens de tourbillon comme ça. Et s'ils n'ont pas dit tout ce qu'ils ont passé dans leur journée de douleur et de joie et de souffrance, ah, ils ne peuvent pas ce soir. Ils ne peuvent pas s'apaiser. Non, au contraire, c'est tout un problème de leur faire sortir ce qu'ils ressentent au-dedans d'eux-mêmes. Ils se cachent. Une espèce d'intériorité. Oui. Au noviciat, ça se voit tout de suite. À droite, à gauche. Comme phénomène, mais c'est le phénomène du vivant, ça. Là, on peut trouver des analogies dans la nature, les orages, et puis le beau temps fixe. C'est évident, il y a quelque chose d'assez particulier comme ça, dans l'air et dans le feu. Il y a des vivants de feu, il y a des vivants d'air, des tourbillons, des cyclones. Et on a tous connu ça, et on voit très bien ça. Il y a des temps de tourbillon dans les familles, bien au contraire, le vieux grand-père sage, silencieux, ou la grand-mère silencieuse, un poids de silence. Il y a le phénomène d'intériorité. Qu'est-ce que c'est ? J'aime revenir en moi-même. Et revenant en moi-même, je sais que je découvre ce qu'il y a de plus vivant en moi. Ce n'est pas ce tourbillon qui est le plus vivant en moi. Je le respecte, et c'est pas ça. Et je sais que dans ce tourbillon, tant qu'on reste dans ce tourbillon, il n'y aura jamais la paix. Il y a des tonnerres et des éclairs. Mais ce qu'il y a de plus profond, c'est redécouvrir cette intériorité. Vous voyez, l'expérience de l'intériorité, qui est une certaine expérience de l'âme personnelle. Et il y en a qui aiment cette intériorité. Il y en a qui la fuient. Phénomène que nous devons tous expérimenter. Celui qui aime de se regarder dans la glace, ça existe. Il y a des périodes comme ça de notre vie où on aime de se regarder dans la glace. Il faudrait préciser l'âge. Et il y en a pour qui ça dure tout le temps. Supprimer la glace, c'est la plus grande privation. Ils sont tellement habitués de se regarder dans la glace. Parce que c'est comme ça qu'ils voient qu'ils vivent. Puis il y en a qui se regarder dans la glace, c'est tellement extérieur, c'est tellement second qu'on aime de s'intérioriser. De ne voir que cela. Ça, c'est périphérique, hein, mais c'est quand même très important. C'est très important pour, je crois, susciter l'admiration. Pour qu'on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui me permet de découvrir mon intériorité ? Et cette intériorité, elle existe, je ne veux pas dire que c'est un phénomène purement imaginatif et secondaire, pas du tout. Il y a certaines journées où je suis pris entièrement par ce point de vue extérieur, et il n'y a rien de plus fatigant quand il n'y a pas ce repos. Et pour d'autres personnes, quand il n'y a que l'intériorité, ah, comme c'est effrayant. Quand on peut parler, quand on peut s'agiter, quand on peut... c'est reposant. Je découvre progressivement que seul le vivant est capable de se reposer. Au fond, l'extériorité me met en pleine naturalité avec l'orage, le vent, la pluie. Et je suis en harmonie avec tout ça. Toute voile dehors, non, on voit très bien. On laisse passer le vent et le tourbillon. Le vivant seul se repose. Et ça, je constate. L'expérience du repos est une expérience vivante. C'est très curieux, parce que c'est juste l'inverse de ce qu'on dit quand on voit un gosse. Oh, ce qu'il est vivant, c'est-à-dire qu'il bouge tout le temps. Et puis si le gosse ne bouge pas, je me souviens, c'était assez extraordinaire. Une jeune maman qui arrive comme ça, c'était une journée de récollection, affolée. Mon petit, il bouge plus. Il est mort. Il bouge plus. Mais il était vraiment affolée. De celui qui se repose. Si on n'a pas au-dedans de nous-mêmes, quand on la voit chez l'autre, on dit, alors on le secoue. Il y a des gens qui ne peuvent pas tolérer l'immobilité d'un être. Alors ils secouent pour qu'il bouge. Parce qu'alors à ce moment-là, on sait qu'il vit. Tandis qu'il reste immobile là. Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il n'est pas vivant? C'est comme la chrysalide. La chrysalide qui reste immobile, on met son doigt dessus pour voir si ça bouge. Ah, il y a honte. Je ne bouge plus. C'est curieux, hein? L'immobilité, c'est le signe de la mort. Alors, tant qu'il bouge, non, il vit. Ça me rassure. Et le repos est le propre du vivant. Une espèce d'antinomie-là très, très curieuse. Seul le vivant se repose et l'immobilité est le signe de la mort. Alors, allez comprendre quelque chose. C'est ambivalent, ceci. Et c'est un fait, hein, courant, ça. Je vais chercher qu'est-ce que c'est que la vie. Est-ce que la vie, c'est le repos? Est-ce que la vie, c'est l'immobilité? Il y avait, je me souviens, quelques années, une petite exposition artistique entre la Grèce et l'Inde. C'est extrêmement intéressant, point de vue sculpture. De voir que le mouvement était grec et l'immobilité, c'était l'Inde. Le Bouddha, immobile. La Grèce, c'est le mouvement. Alors, on voit très bien exprimer le vivant par le point de vue du vieux, par le point de vue du mouvement, exprimer la vie par l'intériorité. Et je suis là en face de deux choses qui apparemment sont contraires. Alors, qu'est-ce qu'est le vrai vivant? Et si je n'ai pas cette expérience-là de ces deux contraires, mon intelligence n'est pas en état de se poser la question « Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que ma vie ?» Ou découvrir la source de ma vie dans l'immobilité ou dans l'agitation. Extraverti, introverti. Alors, qu'est-ce que c'est que le vivant? Qu'est-ce qui permet de découvrir ce qu'est la vie? Je me pose l'interrogation. Et c'est à partir de là que va commencer la recherche inductive du principe propre de ma propre vie. Et s'il n'y a pas cette interrogation dans ce qu'elle a de plus fort, je risque de jamais découvrir mon âme. C'est quand même important. Il faut, dans le monde d'aujourd'hui, rationnel, positiviste, que nous ayons tous l'induction propre de notre âme. Autrement, vous serez en face d'un positiviste, un biologiste, qui vous dira, oh, mais l'âme, c'est fini. Je me suis trouvé devant ce cas-là, à Lausanne, avec le professeur de philosophie de Lausanne, professeur de l'université de Lausanne. Un beau jour, je parlais avec lui. Il dit, mais tous mes étudiants sont pris par Merleau-Ponty. Merleau-Ponty dit que la distinction de l'âme et du corps est une distinction mythique, périmée. justement la distinction de l'âme et du corps comme distinction qu'on ne pouvait pas lâcher au plan philosophique. Et que si on l'a lâché, on tombait dans un matérialisme. Et qu'aujourd'hui, c'était capital. Au plan philosophique, c'est capital. C'est le grand tournant philosophique. Si vous voulez entrer en philosophie, prenez cette voie. Parce que elle est proche de notre attitude religieuse. Vous voyez, elle est proche de mon expérience quotidienne. Tout le monde, sans avoir un sens philosophique très pénétrant, doit pouvoir arriver à la distinction de l'âme et du corps. Donc découvrir l'âme comme source de vie, source propre de ma vie. Et il sentait ça très fort. Ce brave professeur, il était très ennuyé que tous ses étudiants n'arrivent pas à comprendre ça. Il m'avait dit, est-ce qu'il faudrait que je vous invite un jour pour que vous puissiez montrer que cette distinction n'est pas périmée du tout. Je me suis trouvé devant une vingtaine de jeunes étudiants qui tous refusaient la distinction de l'âme et du corps. Au plan philosophique. Et on se trouve devant ça, vous tomberez devant ça, faisant des petites prédications, des terminales. Mais il est bon, en plein milieu de la retraite, de reprendre le problème de l'âme et du corps. Le problème de la liberté. Il y a des problèmes comme ça qui sont des clés. Et si on les voit pas, on prend la voie du matérialisme. Du rationalisme, du positivisme. Et petit à petit, on rejette tout élément spirituel. Et donc, toute attitude religieuse et l'existence de Dieu. Et je crois que ça, c'est la grandeur de Platon et la grandeur d'Aristote. Ce sont des philosophes de l'âme. Ce sont des philosophes qui ont mis toute leur attention à montrer que les traditions religieuses avaient un fondement dans la réalité. Distinction de l'âme et du corps. Au plan philosophique. Donc je crois que au plan de notre vie à nous, cette induction de l'âme est capitale. Il faut, si on veut faire un peu de philosophie, la découvrir. La philosophie de la matière est très importante, mais vous comprenez, c'est pas vital. C'est très important, mais ce n'est pas vital. Tandis ici, c'est vital. N'est-ce pas ? La vieille chanson religieuse, vous savez, je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver. Eh bien, je crois que le philosophe, là, a un rôle très important de montrer que l'âme est une réalité et que c'est la réalité pour moi la plus immédiate. Mon âme est plus proche de moi que mon corps. Aujourd'hui, on exalte le corps. Étonnante, cette exaltation du corps dans tous les Jeux olympiques. Et on ne peut plus que ça, il n'y a plus que ça, l'exaltation du corps. Parce que évidemment, l'existence du corps, c'est pas la peine de faire une induction. Hein. Vous touchez votre corps tout le temps. Alors il ne faut pas aller jusqu'à la position platonicienne, qui est une position très curieuse et très intéressante. Le corps, c'est le tombeau de l'âme. Non, c'est pas vrai. C'est la maison de l'âme. Alors évidemment, vous pouvez choisir d'avoir une maison qui est un tombeau. Dans certains cimetières, on voit qu'il y a des petites maisons qui servent de tombeau. Alors vous pouvez opter pour un tombeau. Et le corps n'est pas un tombeau. juste du corps que si je connais l'âme. On voit toutes les bêtises qui ont pu être faites et qui continuent d'être faites. J'ai certains biologistes qui ramènent le corps de l'homme au corps de l'animal et le corps de l'animal au monde physique, au monde de la chimie. Je soigne le corps de l'homme par la chimie. C'est assez gros. Parce qu'il y a quand même une distinction entre les deux. Le pauvre corps de l'homme aujourd'hui est soumis à des tortures. Pas les tortures habituelles, les violences, mais les tortures chimiques. Des psychanalystes. Des psychiatres. Des hôpitaux. On veut guérir en assommant. C'est très très curieux ce qui se passe. Il faut le voir avec honnêteté, il faut le regarder en tant que philosophe. On est devant le massacre de l'âme aujourd'hui, on peut le dire. C'est le massacre de l'âme. On veut tuer l'âme, on ne veut plus en parler. On veut qu'on n'en parle plus. Et ceci dans des milieux même chrétiens. J'ai déjà dit cette réflexion de certains philosophes que je connais. Mon père, on ne peut plus parler de l'âme, ce n'est plus sur le marché philosophique. C'est plus sur le marché philosophique. Et c'est vrai, c'est plus sur le marché philosophique. Et nous devons rétablir le marché de l'âme. Alors, nous devons montrer qu'on ne peut pas parler de l'homme, qu'on ne peut pas parler de la personne humaine sans parler de l'âme, au plan philosophique. Donc, l'induction par rapport à l'âme est capitale. Alors, cette induction, elle est relativement facile. Faites vous-même l'inventaire d'une de vos journées, au plan philosophique. Un petit examen de conscience. Vous êtes réveillé ce matin, j'espère. Je ne sais pas si vous étiez heureux de vous réveiller. Ça met un climat particulier sur la journée. Quand on entend dans le réveil, on dit « Ah, enfin !» Moi, c'est « Oh !»« Ah, si vite !» Tout de suite, un climat différent. C'est vrai, on a conscience de se réveiller. Tu vois, normalement. On quitte un état particulier qui est celui qui dort. C'est très curieux, l'état de celui qui dort. Il n'y a pas beaucoup de philosophes qui ont parlé des rêves. Aristote, Freud, traiter des rêves chez Aristote. Donc si vous voulez devenir un spécialiste de l'âme, commencez par cet état de celui qui dort et qui se réveille. Prenez conscience tous les jours de votre réveil. Pas la petite machine à côté, mais de votre réveil propre. Et toute la journée, entendez le réveil qui vous réveille. C'est curieux, ça. Passage de lui qui dort et qui est réveillé. Somnambulesque où je dors et je suis réveillé, et quelquefois cet état intermédiaire, les tièdes, je les vomirai. Il faudrait que philosophiquement on comprenne que l'état de celui qui ne veut pas se réveiller totalement, c'est un tiède au point de vue de la vie, et c'est un folon. L'exercice personnel, individuel, de se réveiller, de laisser tout restreint. C'est l'expérience première. Puis, pour un religieux, donc pour nous, l'expérience de la prière. de celui qui se réveille, il y a un aspect biologique de respiration qui est très simple. C'était un vieux docteur, je me souviens, le père d'un dominicain. Quand j'étais permis, j'avais demandé des renseignements très précis, parce que c'est important, hein, sur ce que c'est que notre vie biologique. Alors il avait beaucoup insisté sur la respiration. Si on a de la peine à se réveiller, respirer. C'est une manière de se réveiller. C'est vrai, c'est le premier moment de l'autonomie du vivant, c'est qu'il respire. Premier cri d'enfant, il respire. Et c'est l'autonomie. Et se réveiller, c'est découvrir l'autonomie, parce que quand vous dormez, vous n'avez pas beaucoup d'autonomie quand vous dormez. Vous êtes au rythme du monde. Quand il se réveille, c'est un autonome, donc la respiration. Et puis, ensuite, l'intériorité. La prière. Vous redécouvrez ce qu'il y a de plus intime en vous, votre lien avec Dieu. C'est un acte du vivant. Et du vivant dans ce qu'il a de plus vivant. Je ne dis pas que par la prière il se sépare du corps, mais presque. Par la respiration, il est dans son corps. Ça, c'est l'expérience de l'incarnation la plus forte de mon âme, ma respiration. Tandis qu'au contraire, la prière, c'est l'expérience de ma plus grande intériorité. Puis, je m'éveille à la philosophie. La prière, c'est l'amour. La philosophie, c'est l'intelligence. Vous voyez comme on est bien rythmé. Hein. Et le cours de philosophie le matin, et c'est une hygiène de l'esprit parfaite. Il y a un cours de philosophie percutant, ce qui nous oblige de nous faire le jugement d'existence et de comprendre que mon intelligence est un état d'alerte. Induire, c'est quelque chose. L'intelligence qui veut dépasser le sensible et tout descriptif. Évidemment, on peut continuer d'être tiède dans un cours de philosophie, comme dans l'oraison, comme dans la prière. Moi, je me réveille qu'à 11h du matin. Jusque-là, je suis dans le coton. C'est plus l'oreiller, parce que mon oreiller, j'ai bien été obligé de le quitter, mais je vais le laisser dans ma cellule, parce que ça aurait été difficile de le transporter avec moi. J'étais un bon vivant et j'ai assimilé mon oreiller. Et j'ai mon petit oreiller intérieur. Criez pas trop fort. Laissez-moi continuer un peu des somnolents. Oui. Aussi bien dans la raison que dans le cours. Oui, il y a un cours, mais c'est un peu trop tôt. Être philosophe à cette heure-là, c'est... Non. Alors je continue de dormir. Est-ce que je peux continuer? C'est évident. La vie végétative, le petit déjeuner. Pour certains, c'est le véritable réveil. Jusque-là, pas trop vite, vous voyez. C'est curieux, les complicités avec le positivisme, les complicités avec le primat du corps. Dans le sommeil, c'est le primat du corps, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on aime tellement le sommeil. Sauf le boss, c'est très curieux. Et chez l'animal, c'est aussi comme ça. Les petits animaux n'aiment pas le sommeil. Ils dansent tout de suite, immédiatement. Des petits chevreaux, je dois le prendre. J'ai prévu, j'aimerais beaucoup mieux aller tout de suite aller travailler. Mais je vais perdre 10 minutes après mon petit déjeuner. Je vais perdre un quart d'heure après mon petit déjeuner. Je vais perdre 20 minutes avant mon petit déjeuner. C'est intéressant de mesurer la lenteur et la rapidité du petit déjeuner. Dieu s'est servi de ça pour faire un discernement entre ceux qui iraient délivrer Jéricho et ceux qui n'arriveraient pas, ceux qui vont la bélo. Curieux, hein, l'évitative qui sert de signe. C'est là qu'il s'installe. Enfin, là, je vis. Enfin, je vis. L'oraison, là, le cours de philosophie danse donc. Tandis que là, je vis. La vie végétative, elle se porte bien. J'en ai besoin. Mais je vis bien. Mais attention, hein. C'est pas là où je vis parfaitement. Il y a une analogie entre la nourriture et le sommeil. C'est curieux. Et je retrouve un primat de la vie végétative dans le petit déjeuner. Et après, je vais travailler. Ah, le travail, je retrouve un lien avec le cours. Pas toujours, parce que c'est un travail manuel. Non. C'est un travail intellectuel. Bon, vous voyez, ponctuer toute votre vie. Vous voyez toute la diversité de ces opérations. Puis vous rencontrez un frère que vous aimez bien. Alors, il y a toute l'affectivité. Toute l'affectivité passionnelle.
C'est moi.
c'est moi qui mange. Je ne mange pas pour mon voisin qui n'est pas là et qui devrait être là, mais qui a continué de dormir. Et j'ai pris mon petit déjeuner pour lui. De sorte que je pourrais lui dire, tu peux te dispenser de manger ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner pour toi. Mon amour pour toi va jusque-là. J'ai tellement identifié à toi que je prends mon petit déjeuner pour toi. Je peux travailler pour lui, mais je peux pas prendre mon petit déjeuner pour lui. Tiens, c'est curieux. Je peux pas dormir pour lui. Quand vous dites ça à quelqu'un que vous aimez beaucoup, tu sais, tu es très très fatigué, mais ne t'inquiète pas, je vais dormir pour toi tout de suite. Tu verras, tu seras reposé immédiatement. Il y a des activités que je peux faire pour un autre, des activités que je ne peux pas faire pour un autre. Ah, nouvelle distinction. Intériorité, extériorité, l'altruisme. Je peux travailler pour un autre. Mais je ne peux pas dormir pour un autre. Je ne peux pas manger pour un autre. À la rigueur, être passionné pour un autre. Un petit mélange. Quand vous êtes en face de quelqu'un de très passionné, c'est un feu. Alors ça peut vous réveiller. Donc je veux être passionné pour un autre. Il y a quelque chose qui passe. Il y a de l'électricité qui passe. Il y a des gens qui sont des piles chargées. Ah, extraordinaire, ça suffit d'être 5 minutes au bras des pauvres. Il y a des gens que. Non, non, il n'y a plus rien du tout. Vous voyez, alors, cette expérience du vivant dans tout temps, on peut le décrire. Et tout ça, c'est moi. D'où le problème. Cette diversité et cette unité dans mes opérations vivantes. Vous voyez, c'est le vivant de vie biologique et de vie spirituelle et de vie passionnelle qui me montre la plus grande diversité que je porte en moi. J'en ai une complexité affolante. Je porte en moi le lien avec le monde physique. Je porte en moi le lien avec le monde spirituel. Je porte en moi mon affectivité qui fait que je suis bien avec certains, je suis mal avec d'autres. Et mon affectivité est tellement débordante qu'il suffit que je sois là pour que immédiatement j'attire des sympathies. Et puis immédiatement j'attire des répulsions. Je divise. Ma présence divise. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ma présence unifie. Pourquoi ? Il y a des présences qui. Dans certains milieux, je divise. Et dans d'autres milieux, je pacifie. Comment ça se fait ? Tout ça, c'est le vivant. C'est moi vivant. Vous voyez ? Cette diversité d'opérations vitales, cette unité, c'est moi. D'où l'interrogation, qu'est-ce qui fait l'unité? Qu'est-ce qui fait la diversité? C'est la grande question. D'où vient cette unité? Est-ce que l'unité est plus forte que la diversité ou la diversité est plus grande que l'unité? Tout ça, ça fait partie de mon induction. Et j'interroge. Cette unité, c'est mon intériorité. C'est mon intériorité, cette unité. Dès que je n'ai plus d'intériorité, la diversité l'emporte. Il y a des gens qui, comme on dit aujourd'hui, perdent leur identité. En réalité, c'est pas leur identité, c'est leur unité. Leur unité de vivant. Ils sont tellement pris par la complexité, la diversité, qu'on ne les retrouve plus jamais. Ils sont pris par leur diversité. Un peu comme l'enfant. Quand l'enfant joue, il vous entraîne dans son jeu. Il pense qu'à ça, il dit même pas bonjour. Et ça, elle m'a dit, mais dis bonjour. Mais non, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça, il est extraordinaire. Il est tout entier à ce qu'il fait. Et il y a quelque chose. choses comme ça dans le vivant.